temps de la montagne à cheval.
Alors, on ne vous passera pas le grand classique, peut-être tout à l'heure. Vous le connaissez bien sûr aussi, celui-là. Mais plaçons-nous maintenant dans le cadre de l'annexe de Conches, qui est une maison magnifique, vous la connaissez peut-être, dans la campagne, avec plein d'arbres autour, des grandes fenêtres, une ancienne maison. Et Aline Risberger a dû relever le défi d'installer, de mettre en espace tous ces objets, tous ces projets et ces souvenirs pour que les gens puissent découvrir. Alors, Aline, quand on vous a dit, on vous a contacté en vous disant est-ce que vous seriez d'accord de mettre en espace nos idées, quelle a été votre première réaction ? Parce que je crois que vous détestiez l'école en plus, non ?
Détester, c'est peut-être un grand mot, mais effectivement, je n'avais pas de souvenir très heureux de cette période-là. Comment est-ce que j'ai réagi ? Bah, d'abord, j'ai été très frappée par cette masse d'objets, de cahiers, ces traces d'un passé, en somme, souvent assez éloigné pour la plupart des gens et qui retraçaient une période de leur vie qui est quand même très particulière, cette période scolaire. Oui, il y a beaucoup de choses qui m'ont frappée. Bon, d'une part, cet éloignement du temps, ce temps disparu, et de voir tous les noms des élèves, de voir à quel point les personnes étaient présentes, mais en même temps absentes. Chaque cahier comporte le nom de la personne qui l'a eu entre les mains, les livres parfois aussi. Et surtout, les photos de classe, évidemment, qui gardent une trace assez nette et précise de tous ces gens, de tous ces enfants. Alors, oui, bon, je pense que c'est une des choses qui m'a le plus frappée, c'est l'absence. L'absence des gens. Ce qui semble absolument banal quand on parle d'objets qui ont appartenu à quelqu'un. Mais en même temps, tous ces gens-là étaient ou photographiés ou nommés. Et j'ai eu assez envie de repeupler cette maison, en tout cas de redonner des corps, remettre des corps entre ces objets. Et pour ce faire, j'ai agrandi certains personnages, certains enfants qui se trouvaient sur les photos de classe pour les découper ensuite et faire des espèces de petits, je ne sais pas si c'est des fantômes, mais des êtres plats en deux dimensions qui pouvaient accueillir le visiteur.
C'est vrai qu'ils nous donnent une bizarre impression, ces personnages. À la fois, on a l'air, au premier abord, suivant dans quel angle on entre dans la salle, on a l'impression qu'ils sont là, puis tout à coup, ils rétrécissent de minceur et deviennent un peu justement des trucs bizarres comme ces personnages dont on veut faire croire qu'ils sont vivants et puis il n'y a rien derrière. Et tout à coup, ça fait un peu des sortes de fantômes, effectivement. Ça, c'est pas un peu bizarre ? Ça ne contribue pas à maintenir un peu une drôle d'ambiance autour de l'école ?
Je pense pas, parce que bon, c'est évidemment qu'ils étaient plus là pour parler du temps et du souvenir, de mettre le spectateur dans cette problématique du souvenir et du temps qui est passé, accessoirement de l'école, je dirais. Mais je ne sais pas si c'est si bizarre que ça. Je sais pas.
Alors, vous êtes, disons, votre parcours, c'est d'être artiste, pas du tout, je ne sais pas, à qui d'habitude on fait appel lorsqu'on fait la mise en espace d'une exposition. Est-ce que c'est habituel, ça je peux demander peut-être à Charles ou à Christine, est-ce que c'est habituel de faire appel à une artiste pour faire la mise en espace d'une exposition ? Qu'est-ce que vous attendiez d'Aline en particulier en vous adressant à elle ?
Est-ce que c'était son passé ? Est-ce que c'était sa signature d'artiste ou... Moi, je pense qu'il y a, il y a différentes expositions. Il y a des expositions qui sont où on ne fait pas appel à autre chose qu'à un décorateur, à une décoratrice, c'est-à-dire à quelqu'un qui fait de l'étalagisme. Je crois que, quant à moi, c'était vraiment c'était une obligation de départ. Cette exposition, ça pouvait pas être de l'étalagisme. C'est-à-dire que quand moi j'ai l'habitude de travailler avec des objets qui sont trois dimensions, qui ont par eux-mêmes un volume, qui occupent toute seule l'espace. Ensuite, tout devient vite artifice autour d'eux. Ici, c'est vraiment 10 000 objets d'école. Ça tient dans un petit bureau comme votre studio. Donc moi, ça m'impressionnait pas du tout. Et il me semblait qu'il s'était vraiment nécessaire pour ces objets de leur offrir plus que de l'étagisme, et que pour le thème, c'était absolument plus que nécessaire qu'il y ait un, que quelqu'un puisse travailler avec, avec le symbole, avec, qu'il puisse aller au-delà de l'objet, faire parler l'objet très très différemment.
Alors Aline, pour ce faire, vous avez choisi toutes sortes de matières qui avaient sûrement beaucoup d'intentions. Il y a beaucoup de plastique transparent, il y a des photos absolument magnifiques qui sont reproduites sur des tissus transparents qu'on peut voir d'un côté comme d'un autre. Il y a des supports un peu magiques pour supporter certains objets dont on se demande si c'est des pupitres, etc. Tous ces matériaux, toute la façon de présenter les choses, vous l'avez pensé avec quelle intention ?
Ça, évidemment, il me semble que c'est plutôt dans la rencontre particulière avec des objets que les choses se mettaient en place. Je veux dire par là que chaque objet à exposer amenait à des idées de mise en scène, de mise en espace, que le générateur était l'émotion que je pouvais avoir ou les idées qui venaient dans une rencontre avec un objet. Je peux donner un ou deux exemples peut-être. C'est par exemple les bulletins scolaires, qui est un objet qui a été extrêmement conservé par les gens, m'amenait évidemment à cette notion d'évaluation de la différence qui est faite entre les bons et les mauvais, de la notation et toutes les remarques sur la discipline et la tenue en classe, évidemment. Et ce qui était effectivement un souvenir assez vivant dans ma mémoire. Et ça m'a amené à une forme pyramidale, d'essayer de classer, de mettre ces bulletins scolaires dans une structure pyramidale et assez froide, où certaines silhouettes ces agrandissements d'écoliers étaient parfois placés, ceux qui avaient les airs le plus arrogants étaient placés tout en haut de colonne, un peu classique, comme ça, avec des couronnes de laurier. Donc c'est par exemple des processus qui sont enclenchés dans une rencontre avec les objets. Il y a les albums souvenirs, ces albums qu'on se prête quand on est enfant pour que son petit camarade ou sa petite camarade se fasse un dessin et nous donne quelques vœux de, je sais pas quoi, d'amitié indestructible, évidemment, ce qui est souvent un leurre. Donc m'amenait à cause de l'iconographie qu'on peut retrouver dans ces albums, qui est souvent des myosotis, évidemment liés à la mémoire, Vergisst mein Nicht, ou les pensées, donc il y a toute une iconographie florale, m'a amené à faire une mise en scène avec des fleurs, et des fleurs bleues, parce qu'il y a bien cette expression qu'on connaît bien, ça fait fleur bleue, c'est vrai que ça, ça a un côté un peu dérisoire. Donc, dans le détail, évidemment, chaque objet amène à sa mise en scène particulière. Et d'une manière plus générale, j'avais assez envie... Bon, l'exposition se déroule dans toute la maison. Donc, c'est une grande boîte, on peut se dire, dans laquelle on va être amené, ou le spectateur va être amené, à faire un véritable voyage, un parcours un peu... peut-être pas initiatique, mais en tout cas un voyage à travers ses souvenirs et ses objets. Et j'avais envie que ce ne soit pas de la décoration, je veux dire juste une mise en place d'objets, mais que le spectateur, au moment où il rentre dans cette maison, il est vraiment interpellé par des images immédiates. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'aller lire un texte ou de se pencher sur un objet pour le décrypter, mais qu'il est immédiatement interpellé, parfois même physiquement, par une ambiance, une image, donc qui se rapprocherait plus d'une mise en scène de théâtre, je dirais.
Est-ce que tu as voulu marquer aussi dans la mise en espace le fait que tu savais comme toi qu'il y avait des gens qui n'aimaient pas l'école et qui espéraient forcément ne pas retrouver que l'école magnifique, mais aussi peut-être les difficultés de l'école?
Bien sûr que j'ai eu quelques malins petits plaisirs à placer deux, trois ironies qui sont ou non visibles, je pense. Mais c'est un peu une auberge espagnole, je crois, de toute façon, n'importe quelle exposition, parce qu'on n'a pas le temps de tout lire, de tout voir. Et aussi, on a un regard qui est souvent très sélectif. On voit ce qu'on veut voir, comme on peut comprendre ce qu'on veut comprendre. Et c'est pas forcément, donc, pas forcément visible, mais je crois que si on peut voir le bon élève à l'air prétentieux d'une manière très ironique, mais on peut être aussi conforté par cette image-là, je crois.
Est-ce que si l'espace qu'on t'avait confié pour installer cette exposition, pour mettre en scène cette exposition, était totalement différent, et si c'était un espace très moderne, puisque cette maison est une maison ancienne, est-ce que tu as la sensation que ça aurait changé ta conception de l'exposition? Est-ce que le lieu lui-même a beaucoup dicté la mise en espace?
Oui, je pense beaucoup. Bon, d'une part, il y a d'abord une première étape qui est celle de l'élaboration, comme Charles disait, du scénario. Donc là, c'est un travail plus communautaire, c'est un dialogue entre les organisateurs, les penseurs de l'exposition et moi qui avons déterminé dans quel espace était montré quelle chose. Donc l'élaboration d'un parcours, de quelle chose suivait quelle autre, quel était le lieu privilégié pour montrer un objet. Mais bien sûr, alors au niveau de l'accrochage proprement dit, quoi, de l'accrochage des matériaux utilisés, de l'espace qui est donné pour montrer certaines choses, bien sûr que là, c'est totalement déterminant. Et le style de la maison est aussi assez déterminant. C'est une maison assez ancienne, oui, je pense, c'est du début du siècle, donc qui est principalement faite de bois. C'est une espèce de... C'est une atmosphère très chaleureuse et aussi très empreinte déjà d'une histoire qui précède l'exposition. C'était une maison d'habitation qui a dû voir courir les enfants et cuisiner des cuisinières. Donc déjà très chargée. Et je pense que si ça avait été un espace beaucoup plus froid, beaucoup plus neutre, comme un espace dévolu véritablement à des expositions, ça aurait certainement changé beaucoup de choses. Quoi, je ne peux pas vraiment le dire, puisque j'ai travaillé à partir de cette contrainte-là.
Le souvenir aurait été moins souvenir dans un espace plus moderne ?
Différent. Je pense que l'approche aurait été nécessairement différente.
Une dernière petite chanson avant de parler à l'histoire de la chanson.
De la montagne à cheval. Elle descend de la montagne à cheval. Elle descend de la montagne, elle descend de la montagne, elle descend de la montagne à cheval. Sidi aïa, youpi youpia. Sidi aïa, youpi youpia. Sidi aïa, youpi youpia. Elle embrasse son grand-père quand elle descend. Elle embrasse son grand-père quand elle descend. Elle embrasse son grand-père, elle embrasse son grand-père. Elle embrasse son grand-père quand elle descend. Sidi aïa, youpi youpi aïa. Sidi aïa, youpi youpi aïa. Sidi aïa, youpi aïa.
Alors Chantal Renevet-Effry, vous êtes responsable ce week-end de parler de l'histoire du chant dans les écoles genevoises. Alors quel va être un petit peu le programme autour de cette idée?
Alors en fait, l'idée de base de cette conférence, elle est venue du fait qu'on avait bien dit, cette exposition n'est pas une exposition historique. Mais cependant, dans la salle du rez-de-chaussée, que je pourrais peut-être appeler salle très technique, on a fait une toute petite ouverture dans cette direction pour montrer un peu quelle pourrait être l'exploitation d'un tel fonds. Et grâce à Aline, nous avons eu une mise en scène de chorale de gens invisibles qui nous tendent une main sur laquelle reposent différents manuels scolaires qui nous montre bien, me semble-t-il, l'évolution du répertoire du chant dans les écoles genevoises. Et en m'attelant à l'étude et au dépouillement de ces manuels et des cahiers de chant que nous avions reçus de la part des donateurs et des donatrices, j'ai eu envie d'en savoir un peu plus, de le faire partager et de l'illustrer, puisqu'aussi le chant est peut-être la discipline qui s'illustre le mieux dans le cadre d'une conférence, puisque nous aurons vendredi soir la participation d'une septantaine d'enfants de l'école primaire d'Anières sous la direction de Frédéric Meyer de Stadelhofen.
Alors oui, précisons que ce week-end, il y a une animation particulière qui est organisée dans le cadre de l'exposition Les Cahiers au Feu, trois points de suspension, la mémoire au milieu. Et pendant cette animation particulière durera 3 jours, le vendredi, le samedi et le dimanche. Et on commence effectivement le vendredi à 18h30 avec « Et chantons » en parlant de l'histoire du chant. Alors, quelles sont un petit peu les pistes que vous avez trouvées en analysant l'histoire des chants? Est-ce qu'il y a des périodes où on chante plutôt les chants d'église, ensuite après c'est la patrie, j'imagine, enfin ce qu'on doit retrouver un petit peu dans les chansons qu'on apprenait aux enfants, chants patriotiques, les chants religieux, puis peut-être aujourd'hui, bon, c'est plus écologique, c'est plus, je sais pas quoi, on varie suivant les âges et l'idéologie.
Alors je crois que là, en fait, vous avez dit l'essentiel. Il est vrai qu'on commence par des chants religieux, que ces chants religieux, bon, je remonterai vendredi, jusqu'au Moyen-Âge et même jusqu'à la fin de l'Antiquité, et qu'ensuite on a une évolution du répertoire qui est très frappante, notamment au moment où intervient la séparation de l'Église et de l'État à Genève, qui se fait de façon définitive en 1907. C'est à ce moment-là qu'on voit surgir un certain type de répertoire patriotique. Et ce qui est intéressant, c'est de voir en fait quel est le fil rouge dans la thématique du répertoire des chants scolaires, puisque ce fil rouge du patriotisme survit d'une certaine manière. Les chants qu'on impose encore à l'heure actuelle aux enfants des écoles, c'est le Cantique suisse et le Sekeleno. Donc, la prédominance du patriotisme, ou en tout cas de la marque d'un attachement à un pays, elle est très forte tout au long du XXe siècle, même si de temps en temps, on a des ajouts, si l'on veut, ou bien des variations sur un thème qui passent par le folklore genevois, le folklore roman ou le folklore étranger. Et à ce propos, j'ai été très heureuse que vous ayez choisi pour illustrer notre émission des chansons que vous êtes allé enregistrer à la petite école, parce que je crois que cela marque de façon très claire le point qui, à mon avis, est très nouveau dans les derniers plans d'études pour l'école primaire qui date des années 1980, puisque maintenant on souhaite une ouverture à d'autres cultures et à d'autres peuples. Il est bien clair qu'à une époque où nos classes ne sont plus constituées de petits genevois pure souche, mais ont une multitude d'enfants, il est tout à fait valable, me semble-t-il, que chacun de ces enfants puisse amener un peu de sa culture et que de ce fait, les autres puissent apprendre à chanter autre chose. Et vous aurez à cet égard un bel exemple vendredi soir.
Est-ce que parmi les souvenirs des gens, il y avait des pages de chansons, pas seulement des livres de chants? Si je me réfère à ce que mes enfants ramènent de l'école, à l'école primaire, ils avaient des cahiers où ils collaient les paroles des chansons, ils faisaient des petits dessins. Le chant, autour du chant, autour de la chanson, il y avait l'air d'avoir toute une activité. Est-ce que ça fait partie des souvenirs des gens, ça, ou est-ce qu'on, c'est pas resté très frappant?
Ce qui m'a frappé quand j'ai pu lire les textes des interviews, c'est que les gens, en fait, on peut parler de chant. Et par ailleurs, et c'est là en fait où l'intérêt de mon métier d'archiviste intervient, si vous voulez, c'est que nous avons reçu un certain nombre de cahiers de musique, mais nous avons pu constater que statistiquement, ils étaient plus nombreux pour une certaine période. Et à ce moment-là, on s'est demandé pourquoi. Et là, l'éclairage de l'histoire officielle des archives de l'institution département de l'instruction publique nous ont permis de donner une réponse à cette question, dans le sens où j'ai ainsi réalisé que pendant une période, pour des raisons budgétaires et économiques, les élèves ne recevaient pas de manuel de chant, mais qu'ils devaient recopier les chants qu'on inscrivait au tableau. Et ainsi, l'abondance subite et soudaine des cahiers de chant s'expliquerait très bien par une volonté, disons, tout à fait extérieure aux enfants.
Alors, on pourrait peut-être présenter l'ensemble du programme de ce week-end quand même. Est-ce que il y a déjà eu des animations comme celle-ci tout au long de votre exposition? Ça fait partie aussi de la conception du musée d'ethnographie de proposer régulièrement des animations autour de l'exposition elle-même?
Oui. C'est définitivement oui.
Mais quel musée décidément révolutionnaire.
Non, vous imaginez ce musée est au milieu de son parc. Quand on est si bien situé, on peut pas simplement agir comme on agit quand on est dans un musée situé en pleine ville. C'est-à-dire que nous, on veut absolument que les gens prennent un autre billet que celui de venir visiter nos expositions que quand il pleut. Parce que c'est vraiment l'endroit où il faut aller quand il fait beau. Enfin, c'est splendide, il y a ce parc, etc. Il y a une autre chose, c'est que quand on prépare une exposition, On travaille beaucoup, mais une fois que l'exposition est ouverte, on n'a pas tellement d'occasions, il faut toujours les créer, les occasions de rencontrer le public, parce que même moi qui travaille, qui suis toute la journée à Conches, c'est vrai que je passe pas mon temps à suivre les visiteurs. Et alors, on organise pour chaque exposition, ça dépend de nos moyens, une à deux animations qui se passent sur le week-end, trois jours durant, qui sont la plupart du temps entrées libres, et où on rencontre les gens d'une façon la plus simple possible et la plus conviviale possible, c'est-à-dire qu'on monte une tente dans le jardin, il y a de quoi manger, de quoi boire, de quoi causer, et puis on propose un certain nombre, un petit programme. Vous voulez que je vous détaille rapidement le...
Je crois qu'il faut attirer les gens.
Eh bien oui. Vendredi à 18h30, Chantal nous parlera de l'enseignement du chant avec l'accompagnement de 60 à 70 enfants. Et puis ensuite, nous mangerons et nous allons avoir la possibilité de voir la projection d'un film qui s'appelle « Le Home chez nous ». Qui a été tourné à la fin des années 30 et qui porte sur la pédagogie de Ferrières et qui sera présenté par Daniel Hamelin et qui conduira ensuite un débat qu'on a intitulé « L'école active n'est-elle qu'un souvenir ?» Ça, c'est pour le vendredi. Le samedi soir, trois comédiens nous diront des contes qu'ils ont intitulés les contes du tailleur. Alors, parmi toutes sortes de contes, il y aura les tout grands contes de notre enfance, comme le petit chaperon rouge. Et c'est pour le samedi. Le dimanche, nous aurons à l'heure du recueillement dominical un débat mené par les membres de la Criée. Qui vont se questionner entre eux sur le thème de souvenir contre histoire. Et pendant ce débat, comme on est dimanche et qu'on espère que les gens viennent, comme c'est l'habitude en famille, on propose aux enfants un spectacle de contes à 11h aussi le dimanche matin, qui s'appelle Sac à contes, qui est donné par le Croc, qui est ce même groupe de comédiens qui nous dira des contes le samedi soir. Et puis, pour les tout-petits qui décidément sont trop petits, une garderie est organisée. Et puis, parallèlement à tout ça, il y a quelque chose qui n'a rien à voir, mais qui pourra intéresser passablement de gens. Conches est un lieu qui attire comme ça toutes sortes de gens et on a souvent des propositions qu'on essaye toujours d'y répondre d'une façon favorable. Et alors on avait la section céramique de l'école des arts décoratifs sous la direction de Claude Presset qui nous a demandé s'il était possible d'utiliser le parc pour faire des essais de cuisson selon différents types de fours où on peut cuire à même la terre, etc. Donc ils ont construit un four dans le parc du musée et il y aura trois endroits où tout le samedi et tout le dimanche ils cuiront et défourneront leur travail de l'année.
Voilà, bien nous vous encourageons à aller nombreux participer à cette animation ce week-end. Je voulais vous remercier toutes et tous d'être venus parler de cette exposition avec moi cet après-midi. Peut-être pour conclure, je veux passer le petit extrait que j'ai moi-même enregistré lors du vernissage de l'exposition et qui traduit peut-être à la fois l'enthousiasme mais aussi la déception de certaines personnes qui vous ont confié leurs objets. Beaucoup de gens vous ont confié leurs objets, ils y tenaient sûrement beaucoup, beaucoup, et puis certains ont la tristesse de ne pas les retrouver dans l'exposition.
Vous me disiez tout à l'heure que vous aviez envoyé beaucoup de documents. Vous les aviez gardés comment, ces documents?
Ah, c'est ma mère qui les a soigneusement gardés parce que je me suis mariée en Italie. Et puis, quand je suis venue à Genève, j'ai tout emporté et j'ai emporté en Italie. Puis quand maman était malade, je suis revenue à Genève pour la soigner. Et moi, j'étais veuve. J'ai rapporté tout en à Genève.
Pourquoi vous aviez gardé toutes ces choses, que votre maman vous les ait données?
Je sais pas. Des souvenirs, comme ça, des photos. Comme j'avais de très beaux cahiers. Ces dames ont été stupéfaites quand elles les ont vus. Alors, ça m'étonne qu'elles n'ont pas... Je pense que
c'était des cahiers de quoi, vous me disiez? Géographie, par exemple?
Géographie, avec des cartes faites qui m'ont coûté des heures. mais j'y tenais. Par exemple, celle de l'Afrique, de l'Amérique, l'Amérique du Nord. Je faisais le bord des mers, un bleu plus foncé, puis plus clair.
Ça date d'école primaire?
Oui. Et puis mon cahier d'histoire ancienne, alors extraordinaire. Parce qu'on commence déjà de la période de pierre, n'est-ce pas, avec, vous savez, c'est, comment est-ce qu'on les appelait? Alors, cabanes, c'était des grosses... Deux pierres et
les dolmens.
Les dolmens, voilà. La première page, c'était les dolmens. Alors, on avait fait un petit peu ce qui servait pour cuisiner, etc. Enfin, des choses tout à fait simples. Jusqu'à à notre époque.
Et puis ça, c'était dans quelle classe?
En 6e B, c'était une classe spéciale. On avait été sélectionnés entre les Pervenches, le collège de Carouge, et sur la plein palais aussi, une classe. On était la crème, comme on dit.
Vous avez des souvenirs très précis de votre école, vous en souvenez très bien?
Il y a des choses qui sont restées très, très marquées. D'autres...
Ces souvenirs qui sont un peu entretenus par les objets que vous avez gardés, ou bien que vous les refouettez de temps à autre, puis ça vous rappelle
non,
des souvenirs?
Non, parce que vous savez, quand je me suis mariée en Italie, je les ai mis dans un tiroir, et puis de temps en temps, mes enfants allaient leur sortir pour laisser ça tranquille, vous allez y abîmer. Et puis, voilà.
Vous avez fait la même chose pour vos enfants à vous? Vous les avez gardés aussi
non,
plein d'objets?
Non, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas des cahiers qui n'avaient aucun sens. Enfin, c'est pas... Il n'y avait pas d'objets vraiment merveilleux de garder.
Puis alors, vous êtes un peu déçue que ces objets, vous ne les retrouvez pas aujourd'hui dans l'exposition?
Oui, bien sûr, parce qu'elle avait dit que je serais exposée, alors ça m'embête.
Vous aimeriez bien que les autres gens les voient? Ou vous aimeriez bien
non,
les
voir? Non, j'aime bien les revoir. J'espère qu'ils sont bien gardés, c'est ça?
Oui, ils sont tout à fait bien gardés. Et surtout, il faut vous consoler, madame, parce qu'en réalité, ce qui est très important pour les historiens, c'est d'avoir beaucoup de documents d'un même genre. Pour une raison très simple, c'est que si nous n'avons des documents que entre 1940 et 1950, et pas de documents de 1910 ou de 1920, eh bien c'est beaucoup plus difficile pour nous de voir les choses évoluer et de réfléchir au changement. Et dans ce sens, si tous les cahiers ou tous les objets n'ont pas été exposés, c'est dans la plupart des cas, je dirais même tous les cas, en les ayant pratiquement tous feuilletés, que nous avons réussi à nous faire une première idée de la nature de ces objets et de ce qu'ils pouvaient vouloir dire. Donc, votre don ou votre prêt a été très utile, elle sera encore, parce qu'il y aura encore d'autres expositions, et certainement que les dolmens reviendront. Et puis retenez quand même que vous avez eu le plaisir d'évoquer beaucoup de souvenirs et de vous rappeler ce passé. Et je crois que c'est peut-être la principale émotion de cette exposition, c'est que vu la profusion des documents et la variété de ces documents, on se retrouve tout à coup comme ça, sans guère y prêter attention, en train d'évoquer son passé, un passé très intime, très subjectif, et puis ce sera peut-être comme ça que je pourrais conclure pour ma part, qui pose à l'historien plein de questions. Que fait l'historien de l'histoire des gens, de la façon dont les gens se racontent leur histoire? Est-ce que ce que nous leur disons sur eux, c'est toujours des choses dans lesquelles ils peuvent se reconnaître? Et je crois que, à l'évidence, ça n'est pas le cas, parce que c'est un travail énorme d'arriver à permettre à chacun de se repérer dans le temps de manière absolument pertinente. Mais c'est justement de cela que nous discuterons à un moment où la mémoire, le souvenir et leur rapport avec la conscience historique, avec ce que une société se dit d'elle-même et raconte à ses enfants sur ce qu'il faut croire et savoir de son passé, un moment où ces choses ont plus que jamais d'importance.
Eh bien, merci Charles, merci Aline, merci Christine, merci Chantal d'être venue ce soir. Et bien sûr, allez voir les cahiers au feu jusqu'au 2 septembre et participer à l'animation de ce week-end. Remue-ménage aujourd'hui, c'est fini. Encore une petite chanson écolo, puisque tout à l'heure, on aura plein de nouvelles écolo à vous donner.
La baleine bleue cherche de l'eau pour déboucher tous ses tuyaux. La baleine bleue cherche de l'eau pour déboucher tous ses tuyaux. Oh oh oh, oh H2O. Oh oh oh, oh H2O. Elle a tout.
trouvé beaucoup de choses, elle a trouvé beaucoup de choses. Beaucoup de choses, mais pas de l'eau. Oh H2O, la baleine bleue cherche de l'eau pour déboucher tous ces tuyaux. La baleine bleue cherche de l'eau pour déboucher tous ces tuyaux. Oh oh oh, oh H2O, oh oh oh, oh H2O. Elle a trouvé du détergent, elle a trouvé du détergent. Du détergent, beaucoup de choses, mais pas de l'eau. Oh H2O, la baleine bleue cherche de l'eau pour déboucher tous ces tuyaux. La baleine bleue cherche de l'eau pour déboucher tous ces tuyaux. Oh oh oh, oh H2O, oh oh oh, oh H2O. Elle a trouvé un pétrolier, elle a trouvé un pétrolier. Un pétrolier, du détergent, beaucoup de choses, mais pas de l'eau. Oh H2O, la baleine bleue cherche de l'eau pour déboucher tous ces tuyaux. La baleine bleue cherche de l'eau pour déboucher tous ces tuyaux. Oh oh oh, oh H2O, oh oh oh, oh H2O. Elle a trouvé du DDT, elle a trouvé du DDT. Du DDT, un pétrolier, du détergent, beaucoup de choses, mais pas de l'eau. Oh H2O, la baleine bleue cherche de l'eau pour déboucher tous ces tuyaux. La baleine bleue cherche de l'eau pour déboucher tous ces tuyaux.